Parler une photo,
Oui.
puis se dire, ouais, non, je pense qu'il y a peut-être eu un petit job de Photoshop,
Tout à
une petite
fait.
lumière dirigée de telle place pour que les traits paraissent mieux, des choses comme ça, là.
Tout à fait. Puis nous, on a même fait une activité l'année passée qui s'appelle Je suis moi, puis c'est un jeu de société grandeur nature où les jeunes, justement, vont avoir des questions sur ça. Est-ce que cette image-là a été modifiée ou non, selon toi? Puis, tu sais, sous forme de jeu, mais c'est super intéressant de voir la réaction des jeunes qui participent à ça. Tu dirais, hey, au final, je m'étais pas rendu compte que la photo était modifiée, mais oui, elle était. Et qu'après ça, ils ont comme un jugement critique qui suit, là. Fait que quand on parle de littératie alimentaire, on est là-dedans avec ce genre d'activité-là.
Ah oui, mais ça doit être le fun, par exemple, comme jeu. Moi, j'ai pas besoin
On
de ce
est
soir
ailleurs,
pour...
là. On est... Oui. On joue plus juste à l'attaque dans les camps, là.
Non, c'est ça.
Il y a plein de choses
qui se passent.
Ça se développe, là.
Non, mais même moi, en tant qu'adulte, j'aurais envie de jouer, là.
Ah oui.
Ah, ben oui, ben oui.
Ah, c'est bon. Bon, on va y aller avec une prochaine question. Ah, OK, il y en a plusieurs. Ah, oh, j'en ai une, ça disait... OK, ça rentre un peu avec quelque chose qu'on disait tantôt là, sur, voyons, le gaspillage alimentaire. Ah, oh, je suis rendu à 30 minutes. OK. Ah, OK. OK, ben, okay parfait. Ah, oh, c'est vrai, avez-vous... Ah, vous entendez pas. On est rendu à 30 minutes, on a bossé, fait qu'ils ont dit, on va poser la dernière question, puis après ça, on fait la conclusion. La question, là, c'est j'ai récemment consulté un livre de recettes anti-recettes qui s'appelle Cuisiner sans recettes, guide de résilience alimentaire, qui propose conseils et techniques pour favoriser notre autonomie alimentaire et développer les bons réflexes en cuisine en fonction de la saisonnalité et disponibilité des aliments. Ben, la question, ça dit est-ce que cette vision s'inscrit dans le concept de littératie alimentaire? Je pense qu'à la lumière de tout ce qu'on a dit...
100%. Tu sais, je pense qu'ici, on parle d'autonomie, on parle de confiance, de compétence, on parle de saisonnalité où c'est bien manger en fonction de qu'est-ce qui est disponible sur les tablettes. On l'a mentionné tantôt. Je pense que tout ça, ça fait partie intégrante de la littératie alimentaire.
Mais je veux peut-être quand même ajouter que oui, ça fait partie de la littératie alimentaire, mais une personne qui, à l'inverse, est capable de lire une recette, qui est capable de la reproduire, tu sais, ça l'amène à développer ses compétences culinaires. Donc, ça aussi, ça permet de développer sa littératie alimentaire. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, je pense pas qu'il y ait une meilleure façon que l'autre, mais c'est comme je le ramène encore et encore, mais tout dépend, c'est ça, de l'intérêt de la personne, puis de ce qui est accessible. Donc, oui, tout à fait.
Ah oui, exactement, ben oui. Ben oui, effectivement, un livre de recettes traditionnelles, quelqu'un peut lire, tu sais, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Quelqu'un peut s'en servir comme outil aussi, là. C'est
pas, exactement.
Oui, exactement. Comme les gens le sentent. Bon, j'aime vraiment. Merci beaucoup. Ça fait pas mal le tour de mes questions. Fait que, ben, je vous remercie énormément d'être venu à l'émission aujourd'hui pour nous parler de la littératie alimentaire. On se rappelle qu'on est aujourd'hui avec Karine Chamberlain, nutritionniste, et Laurence Labéré, nutritionniste, qui sont de l'organisme de la Fondation Tremplin Santé. Bien, je vous remercie beaucoup de votre participation aujourd'hui. C'était très agréable.
Oui, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Puis je pense qu'un mot en terminant, le plaisir avant tout. Quand on parle de littératie alimentaire, le plaisir. C'est tout ce qu'il faut retenir.
On retient plaisir.
Factum. Merci.
Cette émission est une initiative du Comité SPOT de l'Université Laval, affilié à la Clinique SPOT. En début d'émission, on vous parlait de ce qu'était la santé globale. Ça peut être assez complexe. Ce concept vient de plusieurs mouvements étant arrivé au constat que l'enjeu fondamental de notre société contemporaine, c'est l'inégalité entre les vies humaines. Le comité SPOT a pour mission de sensibiliser et mobiliser la communauté étudiante aux déterminants sociaux de la santé à travers diverses activités. Merci à l'Association médicale canadienne pour son appui financier au projet. Merci pour votre écoute et à la prochaine!
Vous écoutez CHIZ 94.3 FM, à Québec.
100% sport, 100% passion. Chaque mardi, Boisvert Radio vous éclairera sur les actualités sportives à la une des journaux du niveau local jusqu'à l'international. De plus, l'émission accueillera des invités de marque qui viendront partager leurs histoires et leurs anecdotes. Donc rendez-vous tous les mardis de 21h à 22h sur les ondes de CHIZ 94.3.
Le basketball du Rouge et Or est de retour sur les ondes de CHIZ 94.3.
On vous présente le programme double du jeudi 2 mars, alors que les équipes féminines et masculines du Rouge et Or sont en demi-finale de la RSEQ. Joignez-vous à nous dès 18h pour le match des femmes contre les Citadins de l'UQAM et à 20h pour le match des hommes contre les Gators de Bishop. Chiz 94.3, la radio officielle du Rouge et Or de l'Université Laval.
Vous écoutez Les Affamés avec Félix-Antoine Audet et Azilis Potser sur les ondes de Chiz 94.3.
Je sais pas pourquoi, mais j'ai cette fâcheuse tendance à croire que le mercredi, c'est le jeudi. Toujours.
Je vais porter plainte.
Oui, tu devrais, Laetitia, honnêtement. Non, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, c'est toujours le jeudi. Je me trompe, je mets l'intro du jeudi. Non, on est bien mercredi. Je sais que j'aimerais bien avoir ma paye aujourd'hui, mais c'est demain. Oui. Félix-Antoine Audet, ça c'était bon. C'était parti là, on l'avait. On était correct. Après ça, vous pouvez mettre tout le reste à la poubelle. On est plutôt accompagné à ma gauche, Freddy Constant. Comment vas-tu, mon ami?
Très bien, toi?
Ah, toujours très bien. Et à ma droite, Laetitia Zé. Comment vas-tu?
Je vais bien, mais je vais porter plainte.
À qui tu vas porter plainte? C'est moi le boss des émissions de l'info.
Je vais porter plainte contre le boss.
Je t'invite à déposer un formulaire sur mon bureau de plainte qui sera ensuite envoyé directement au comité exécutif qui a un bon surnom qui s'appelle la boîte de recyclage. Ben non. Une superbe journée, très très belle journée pour être enfermé dans un sous-sol dans les bureaux de Chiz. On a de la belle température aujourd'hui à Québec. On est au-dessus des moyennes de de la température de congélation. On est avec un maximum de 3 degrés Celsius aujourd'hui. Il fait beau soleil, ça va être ça toute la semaine là. Le maximum le plus bas qu'on a jusqu'à mardi prochain, c'est moins 2.
Wow. Ça va être beau.
Ça va être merveilleux. Merveilleux. Et c'est ça le problème. Le mois de mars est un imposteur. Je vous avertis.
Exactement.
C'est un méchant agent double qui essaye de nous endormir pendant quelques jours avec de superbes températures. Nous dire, regardez, le printemps arrive. Soyez heureux, soyez joyeux. Puis quand on s'y attend le moins, bang! Il nous ramène ça à moins 25 avec 25 cm de neige. Je sais pas si ça va arriver, mais ça me fait peur. C'est toujours ça le maudit mois de mars. Alors chez moi, avec le avril, ne te découvre pas d'un fil. C'est le mois de mars le vrai problème. Sacrement. Ah non, j'haïs ça. Je vais me mettre confortable. J'avais le manteau ouvert en prenant le bus. J'avais pas de tuque. La vie était belle. Je sais que ce n'est qu'un mensonge. Ce n'est pas le printemps encore, cher non. Québec. Malheureusement, j'aimerais donc pouvoir le dire. Mais le temps passe vite. On est déjà en mars 2023. C'est toujours l'hiver et ne soyez pas trompés par ces belles températures. Je commence cette émission. Ça risque de nous prendre pas mal le premier segment au complet, honnêtement, là, me connaissant. Sur le dernier sondage léger qui est sorti du côté du en collaboration avec Le Devoir. On va évidemment s'attarder sur les classiques, là, intention de vote au Québec et la popularité des différents politiciens. Mais il va y avoir un aspect qui est un peu plus différent. On en parle rarement au Québec dans les derniers temps, dans les dernières années. Mais l'appui à la souveraineté qui est quand même en hausse. Comprenez-moi bien, là, il n'y a pas une majorité du Québec qui s'apprête à voter oui à un prochain référendum. Mais elle est quand même en hausse de façon significative. C'est assez intéressant, on va en parler tout de suite après, là, évidemment, les résultats de base de ce sondage. Donc, rien de bien surprenant, là, on va être honnête, là. Il n'y a pas grand-chose qui change. Du côté de la coalition Avenir Québec, on est à 40% des intentions de vote, 1% de moins qu'on a eu lors des élections. Parti québécois qui solidifie sa deuxième place, eux qui étaient à égalité avec Québec solidaire lors du dernier sondage léger. Ils étaient à 15%, ils sont maintenant à 18% des intentions de vote du côté du parti de Paul-Saint-Pierre Plamondon. Québec solidaire qui suit très près derrière avec 17% des intentions de vote. Le Parti libéral du Québec, 14% des intentions de vote. Le Parti conservateur du Québec est l'un des grands perdants de ce sondage-là et ça paraît soudainement de plus en plus qu'ils n'ont pas accès à la scène médiatique de la même manière avec aucun député à l'Assemblée nationale. On est présentement à 9% des intentions de vote pour le Parti conservateur du Québec. Je sais que quand on fait des analyses comme ça sur les intentions de vote quelques mois à peine après une élection qui a élu un gouvernement majoritaire, ça semble un peu ridicule là, parce qu'on n'a pas d'élection avant à peu près 4 ans. Mais je trouve toujours ça pertinent pour voir un peu un coup de sonde de où se déroule, où est l'opinion des Québécois et Québécoises présentement au niveau de la politique. C'est vraiment le Parti québécois qui est en avance, mais la base, c'est de savoir que François Legault est indétrônable présentement. Là, il y a honnêtement personne qui peut compétitionner, même de près ou de loin, avec lui, encore quelques mois après les élections. Et même au niveau de connaissance et de popularité, François Legault dépasse de loin tous les autres chefs de parti. C'est toujours une question qui donne une bonne idée de l'opinion générale québécoise. À quel point avez-vous une bonne ou une mauvaise opinion des chefs de parti? Et est-ce que vous les connaissez? Ça aussi, c'est la base. Là. La question, c'est est-ce que tu le connais? Si oui, est-ce que tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Pour simplifier, François Legault qui est de loin le plus populaire, 96% de la population québécoise dit reconnaître et savoir qui est François Legault, ce qui est quand même rassurant de savoir que les Québécois savent c'est qui leur premier ministre. On va prendre les victoires quand elles passent. Gabriel Nadeau-Dubois, le co-porte-parole, précisons, de Québec solidaire, qui est en deuxième position. 86% des Québécois qui le connaissent. Mmh. Après ça, on se retrouve avec 78% pour Éric Duhaime, 69% pour Paul-Saint-Pierre Plamondon et 36% pour Marc Tanguay, qui est le chef intérim du Parti libéral du Québec. Même les sympathisants libéraux, donc les gens qui ont tendance à voter pour le Parti libéral du Québec, il y a presque la moitié des gens qui ne savent pas qui est le chef du parti présentement. C'est quand même particulier, là. C'est le parti pour lequel tu dis voter, mais tu peux même pas nommer ou reconnaître qui en est le chef présentement. C'est une drôle de situation, là, du côté du Parti libéral du Québec.
Mais c'est un peu normal à cause des mutations, de la démission de Dominique Anglade.
C'est sûr qu'il y a un impact, là, qui est tout à fait normal. Ouais. Mais quand même, 48% des gens qui savent pas c'est qui, c'est... Je dirais qu'il y a une partie qui est explicable, mais peut-être...
Mais en même temps, Dominique Anglade était comme le poumon de ce parti-là. Le fait qu'elle ait démissionné, ça
ouais, peut-être un poumon artificiel, vu les résultats aux dernières élections, mais je comprends ce que tu veux dire, effectivement. Ouais, c'est sûr que ça a été un coup solide, puis c'est un chef par intérim, donc c'est pas nécessairement promu de la même façon.
Exactement.
Il n'y a pas le même genre de promotion autour de lui.
Exactement.
Au niveau donc des opinions des Québécois, François Legault, qui est apprécié de 60% des Québécois, ce qui est énorme. Un taux de popularité de 60%, honnêtement, c'est gigantissime. Et il a, bon, un 30-quelques pourcents qui ne l'appuient pas. Du côté de Paul-Saint-Pierre Plamondon, c'est lui le deuxième plus apprécié au Québec, là, avec environ 40-quelques pourcents d'approbation. Gabriel Nadeau-Dubois, qui est un de ceux qui divise peut-être le plus, il a plus d'approbation que d'opinion impopulaire envers lui, mais c'est à peu près un 49% contre un 38%, là, donc c'est quand même divisé. Éric Duhaime, qui est de loin le chef de parti le moins aimé au Québec, avec, je crois, ses 69% d'opinion négative, contre à peine 13-14% d'opinion positive. Et Marc Tanguay, les jeunes ne le connaissent tout simplement pas, là, donc rendu là, les opinions sont assez minimes à ce niveau-là. Donc ça donne un bon plan global, vision globale de ce qu'on a sur la scène politique québécoise actuellement. Là où je veux aussi qu'on parle, c'est ce fameux sondage sur la souveraineté qui m'a honnêtement quand même surpris. Il y a plusieurs détails, on va l'aborder. Mais si un référendum avait lieu sur la souveraineté du Québec, voteriez-vous pour ou contre la souveraineté du Québec? Ça, c'était la question qui était posée par le sondage Léger. On a un 51% contre. Donc là, comprenez-moi bien, là, quand je dis que c'est en hausse, le Québec indépendant n'est pas pour demain ni après-demain. Là.
Ouais.
Vraiment pas. Mais le point que Philippe Léger, Philippe Fournier de Léger, là, la sonde de marketing de, ben en fait, la compagnie marketing et sondage qui l'amène, c'est, il dit, c'est surprenant de voir des hausses sur un sujet dont on ne parle pas. C'est pas quelque chose qui fait les manchettes, qui fait l'actualité, et il y a quand même une hausse. Il dit, c'est ça l'aspect qui est quand même surprenant. Il dit que c'est quand même l'un des taux positifs les plus élevés depuis des années, avec 38% qui voteraient oui à un prochain référendum. Il y a un 10% des décis à travers tout ça. Donc, des gens qui ne savent pas s'ils voteraient oui ou non. Ce qui amène quand même à un résultat relativement serré, mais c'est le plus haut résultat depuis là, près d'une dizaine d'années au niveau de la popularité de la souveraineté. Est-ce qu'il s'agit, en lien avec tous les refus d'Ottawa sur plusieurs demandes provinciales, est-ce que ça peut être un facteur qui explique cet intérêt en hausse? Peut-être. Du côté des francophones aussi, c'est intéressant là, de suivre ça, mais du côté des francophones, on est à 48% oui contre 41% non. C'est une des premières fois depuis longtemps aussi qu'on se retrouve avec les francophones qui sont en majorité pour un futur référendum qui désignerait l'indépendance du Québec. Après ça, on a aussi certaines désignations en niveau des partis. Donc, si vous votez pour tel parti, voteriez-vous pour l'indépendance du Québec? La coalition Avenir Québec, sans grande surprise, est pas mal exactement où on s'attendrait, c'est-à-dire moitié-moitié. Un parti qui joue entre les deux. Là,
entre la gauche et la droite.
Il joue entre la gauche et la droite, joue entre le fédéralisme et l'indépendantisme.
Ouais.
On est au pile-poil le milieu, c'est 52% contre, 42% pour chez les électeurs de la CAQ. Ce qui est quand même relativement normal. Encore une fois, sans surprise, Parti québécois, 85% pour,
ouais.
9% contre. Aucune surprise encore. Parti libéral du Québec, c'est 93% contre et 4% pour. Parti conservateur, 72% contre, 22% pour. Celui qui est surprenant. Québec solidaire. Un parti qui se dit indépendantiste.
Ouais.
Rappelons-le.
Mm-hmm.
45% contre, 43% pour.
Ouais.
On en parlait lors de la dernière campagne. Là. La métaphore que j'aimais utiliser, c'est si le Parti québécois crie tout haut son désir d'indépendance, Québec solidaire le chuchote. C'est pas une priorité pour Québec solidaire, ça se sent, ça s'entend. Il y a même des rumeurs comme quoi certains de ses députés eux-mêmes ne seraient pas indépendantistes. Et c'est ce qu'on voit même au niveau des électeurs. Les électeurs de Québec solidaire ne veulent même pas nécessairement d'un pays. Au niveau du Québec, c'est pas la priorité. Donc Québec solidaire qui ramasse probablement plus ses électeurs autour du concept de gauche au Québec plutôt que du concept d'indépendantisme. Ce qui est quand même très, très, très intéressant. On a aussi séparé selon les groupes d'âge. Pour les 18-34 ans, c'est pas extrêmement populaire, l'indépendance, là, chez les plus jeunes. On a un 49% contre 31% pour. Là où ça commence à augmenter un petit peu au niveau du pour, mais ça augmente aussi pour le contre, il y a moins d'indécis. Le 35-54 ans, les gens sont généralement assez décidés. C'est 55% contre, 34% pour. Et là où c'est le plus serré, c'est chez les 55 ans et plus. Donc les personnes un peu plus âgées au Québec, ceux qui étaient plus actifs politiquement justement durant les années des référendums,
ouais.
1980 et 1996, on a 50% contre et 45% pour. Donc, un portrait très, très, très intéressant au niveau là, de ce qui se passe politiquement au Québec, à savoir qui est intéressé par l'indépendance. Honnêtement, ça m'a grandement surpris. C'est pas quelque chose à quoi on pouvait nécessairement s'attendre, parce que comme disait et expliquait l'analyste de la firme Léger, c'est pas quelque chose qui est mis en avant-plan du tout sur la scène politique québécoise présentement. Et malgré tout, il y a quand même
du monde qui a de l'intérêt.
Comme on dit, est-ce que c'est la montée du PQ avec Paul Saint-Pierre Plamondon, plus d'intérêt, ou est-ce que c'est les échecs répétés des demandes.
Des demandes au gouvernement fédéral de Trudeau.
Transfert peut-être. De santé, Amiral Gawabi, immigration. Il y a fait beaucoup. Ouais, exactement. Beaucoup le chemin Roxham. Donc, les pistes de solutions sont nombreuses, mais c'est vraiment, vraiment intriguant de voir ça et d'analyser ces chiffres-là. Je vous invite à aller regarder l'article du Devoir. Là, honnêtement, c'est bien intriguant. On va prendre une pause musicale sur les ondes de Chiz 94.3. C'est Clay and Friends, Bouddha et Marx.
J'ai croisé en voyage l'intuition d'autrefois, entre mille et un visage et le son de ta voix. Raconte-moi la vie entre deux tasses de café. Regarde bien la ville derrière qui s'occupe à ratisser. J'ai mangé de la route, j'en ai dévoré. Perdu des amis, j'en ai retrouvé. Le nom d'une ville sur le bout de la langue. Longue journée dans un tas de sang. Chaque fois que je repense à ton numéro, cherche du bout des doigts à ce billet pour Mexico. Près de la frontière entre le jour et la nuit, les regards se lancent, des mots immobiles. L'herbe se plie dans ma tête en colis. 10 000 photos d'un visage que j'oublie. Mes yeux me notaient à une robe d'été. Pas d'aiguille dans le bras, je ne suis pas tourne-disque. Mes clés m'ont laissé par un soir de juillet. J'ai croisé en voyage l'intuition d'autrefois, entre mille et un visage et le son de ta voix. Raconte-moi la vie entre deux tasses de café. Regarde bien la ville derrière qui s'occupe à ratisser. J'ai mangé de la route, j'en ai dévoré. Perdu des amis, j'en ai retrouvé. Le nom d'une ville sur le bout de la langue. Longue journée dans un tas de sang. Chaque fois que je repense à ton numéro, cherche du bout des doigts à ce billet pour Mexico. Près de la frontière entre le jour et la nuit, les regards se lancent, des mots immobiles. L'herbe se plie dans ma tête en colis. 10 000 photos d'un visage que j'oublie. Mes yeux me notaient à une robe d'été. Pas d'aiguille dans le bras, je ne suis pas tourne-disque. Mes clés m'ont laissé par un soir de juillet. Tout s'éteindra sauf le feu du briquet. J'ai mangé de la route, j'en ai dévoré. Perdu des amis, j'en ai retrouvé. Le nom d'une fille sur le bout de la langue. Usé ma voix pour un tas de change. Chaque fois que je repense à ton numéro, cherche du bout des doigts à ce billet pour Mexico. J'ai traité ton cœur comme un enfant gâté. Pour tâter le goût des dégâts entamés. L'amertume comme Bouddha et Marx. Même les dieux doivent payer des taxes. Dernier accord pour le vent qui siffle. Finis mes phases et ensuite me gifle. Gonfle ma chemise, le passé compose. Ce dernier refrain qui sera le vôtre. J'ai croisé en voyage l'intuition d'autrefois, entre mille et un visage et le son de ta voix. Raconte-moi la vie entre deux tasses de café. Regarde bien la ville derrière qui s'occupe à ratisser. We'll be right back.
écoutez Les Affamés avec Félix-Antoine Audet, Laetitia Zé et Freddy Constant sur les ondes de Chiz 94.3.
Est-ce que ça règle ta demande de plainte, Laetitia?
T'es pardonné à moitié.
On va le prendre. C'est un 50% de fait. Toujours de retour avec Les Affamés, midi 24. On va faire un court segment avant d'aller en courte pause, puisque notre chroniqueur économique sera là, comme à l'habitude, midi 30, pour vous donner vos conseils nécessaires à chaque semaine pour survivre économiquement dans ce monde de plus en plus difficile. Je le dis en riant et un peu tongue-in-cheek, si vous me permettez l'expression, mais c'est quand même vrai, là, avec les taux d'intérêt, l'inflation, tout rajoute un fardeau supplémentaire économique sur le Québec. Je veux cependant parler des infirmiers et infirmières, précisément du CHU de Québec. Le CHU de Québec, c'est sorti dans Le Soleil ce matin sous la plume de Judith Desmeules, qui annonce comme quoi c'est l'hôpital qui a dépensé le plus d'argent en temps supplémentaire. Pas nécessairement en temps supplémentaire obligatoire, un mélange des deux, je vous précise, parce que le CHU de Québec dit ne pas être capable de séparer les deux données. Ne pas être capable... Bon, peut-être.
Là-dedans.
Donnons le bénéfice du doute, wink wink mon œil, mais techniquement, on va dire que c'est le cas. Donc, 17 millions de dollars, et ça, c'est seulement pour 2022, en temps supplémentaire déboursé. Il y a certaines infirmières, là, dans ces cas-là, j'assume que c'est certaines infirmières qui le font de façon volontaire, là, parce que c'est les mieux payés à Québec, mais il y a certaines infirmières qui font plus d'argent en temps supplémentaire qu'en salaire de base. Donc, c'est vraiment quelque chose qui frappe sérieusement le CHU de Québec. 17 millions de dépenses, et c'est plus qu'au plus fort de la pandémie.
Ça fait beaucoup, là.
Au plus fort de la pandémie, c'est un des rares moments que vous m'auriez entendu dire « Je comprends un peu le temps supplémentaire obligatoire. » Dans le sens qu'il y avait un débordement complet de notre système hospitalier, il fallait faire quelque chose. À un certain moment, il n'y avait pas 1000 solutions.
Ouais.
Mais là... 5 millions de plus qu'en 2021 et en 2020. Pas mal des années où j'ose croire que le temps supplémentaire était en forte demande. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose de problématique dans le système au CHU, précisément. Il y a définitivement un problème. Je vous invite à lire là, l'article, évidemment, là, de Judith Desmeules dans Le Soleil. Avant la pandémie, il manquait 500 personnes dans la catégorie 1. Dans le personnel infirmier. Donc ça, c'est les infirmières, les infirmières auxiliaires, les inhalothérapeutes. Donc trois, c'est ces trois grandes catégories-là. Maintenant, on dit qu'il en manque 900 du côté de Mme Hogan, qui est la directrice du syndicat des infirmières du CHU de Québec, Nancy Hogan. Et ce qui se dit aussi de son côté, et là, je sais qu'on va peut-être s'obstiner un peu, mais elle mentionne... encore une fois, l'importance de mettre fin au recours aux agences privées de placement pour avoir recours aux infirmières qui ne sont simplement plus dans le réseau présentement. C'est l'une de ses demandes, là, parce que ce qu'elle dit, c'est on a les infirmières, c'est juste qu'elles ne travaillent pas au moment où on en a besoin.
Mais il faut rendre les conditions de travail dans le système public plus attrayant.
Ça, tu le sais que c'est la partie où on est d'accord.
Fait, je pense que c'est ça le problème.
Ben oui, c'est le problème numéro
aussitôt
un.
Aussitôt que là. Les conditions seront attrayantes, vous verrez que le monde des agents va se tourner vers là. Mais tant c'est qu'on oblige le temps supplémentaire du monde, je pense pas que... Hein.
Ouais. Mais tu vois, ça c'est l'œuf et la poule. Tu sais, on en a déjà parlé, là, on se répète, mais...
On va toujours parler de ça aussi longtemps que le problème va être sur la table.
Mais c'est l'œuf et la poule dans le sens de... Il y a du temps supplémentaire obligatoire, donc il y a des gens qui partent du réseau public,
mm-hmm.
ce qui fait qu'il y a moins de monde, donc plus de temps supplémentaire obligatoire, donc des gens qui partent du réseau public, donc moins de monde, donc plus de... Tu comprends? Ouais. C'est l'un cause l'autre qui cause l'autre en même temps. Là.
Mais ce que vous voulez dire aussi, c'est que si vous regardez le modèle privé dans les centres d'hébergement privés, les résidents pour personnes âgées privées, vous verrez que quand il y a pénurie, on appelle l'agent, puis ça fonctionne mieux. Il n'y a jamais eu de plainte ou quoi que ce soit. Les infirmières de ce secteur-là ne sont jamais plaintes.
Non, mais ça c'est sûr. Comprends-moi bien, ils sont tout aussi compétents et tout aussi incroyables.
Ouais.
Ce que les employés d'agences privées font, c'est tout aussi important.
Ouais.
C'est juste que, puisque, c'est techniquement, là, si tout le monde avait l'horaire de rêve qu'il y a dans les agences privées de placement, ben on aurait des hôpitaux qui fonctionnent pas la nuit. Fait que bonne chance si tu te coupes une jambe durant la nuit. Tu comprends un peu mon point, là, c'est
ouais,
ça.
Je comprends très bien.
Il faut qu'il y ait du monde qui accepte
mais
de travailler.
Mais la question reste dans les conditions du travail que le gouvernement doit
faire. Ça, on est d'accord.
Ouais.
Mais puis je sais que ça fonctionne pas comme ça, là. Mais dans un monde où soudainement toutes les infirmières et infirmiers qui sont dans des agences privées se ramassent dans le réseau public, il y a probablement beaucoup moins de temps supplémentaire obligatoire.
Ouais.
Parce que tu as plus d'employés pour couvrir tous les chiffres horaires.
Ouais.
Mais ça, évidemment, on n'a pas fini de débattre de ça. C'est pas réglé et c'est loin d'être réglé.
Exactement.
Même s'il y a le projet de loi là, de Christian Dubé qui vise à se débarrasser du recours aux agences privées de placement d'ici 2026 à l'entièreté du Québec.
Ce n'est pas la solution, mais on
verra bien. On va prendre une pause publicitaire sur les ondes de Chiz 94.3. Au retour, Nick Leclerc, notre chroniqueur économique, qui est avec nous pour nous donner ses fameux conseils.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Pour entendre la dernière chanson des Shirley, savoir ce qu'Olivier Arthaud fait en théâtre ces temps-ci et être au courant de tous les événements organisés par le collectif Ramen, c'est Chérie J'arrive qu'il faut écouter. T'as aucune idée de qui je viens de te parler? Raison de plus pour ouvrir ta radio de 16h à 17h30 tous les jours de semaine.
C'est quoi exactement du rock? De la musique d'une autre époque? Des sons provenant d'un garage tout sale? Une alternative à la musique pop? Aucune de ces réponses et toutes ces réponses. Le rock, ça change, ça bouge, ça brasse, mais surtout, ça surprend. Si tu veux rebooter ta définition de ce genre musical, écoute Rock Ta Case. Chaque épisode, on vient décortiquer un thème avec des chansons qui méritent d'être entendues. Pour trouver des artistes différents et pertinents, écoute Rock Ta Case un mardi sur deux à 14h sur les ondes de Chiz 94.3.
Hey, what's up tout le monde? C'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du Son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc, manquez pas ça, Les Architectes du Son.
Dès le début, on te l'avait bien dit, mais t'as pas cru. Il découvre que je suis comme poupée russe. Objectif être riche comme Crésus. Il n'y croyait pas dès le début. On te l'avait bien dit, mais t'as pas cru. Il découvre que je suis comme poupée russe. Objectif être riche comme Crésus. Je suis bien la preuve que tout est possible, tout est possible. Bébé, tu peux monter dans mon bolide, dans mon bolide. J'suis la compétition, je mérite, je mérite. Hey. Meilleur chrono après un tour de piste. Au moins, faut pas, je les vois applaudir. Y'a pas de succès sans échec. Je saute sur le casque comme une trampoline. T'as toujours pas fini le cégep. Prochain movie, j'suis au black office. Comme Drew, Viola Davis. Si demain tout s'arrête, c'est la vie. Ils verseront des larmes de crocodile. J'ai changé de classe économique. Jeune femme et noire, je porte la police. Pas de pétanque, y'aura pas de justice. Soit t'es un allié, soit t'es leur complice. J'prends plus les DM, les déclarations. Les appels manqués et sollicitations. Les tapis rouges et félicitations. Normal, on est toujours dans l'action.
Ils n'y croyaient pas dès le début.
Non!
On te l'avait bien dit, mais t'as pas cru.
Non!
Ils découvrent que je suis comme poupée russe.
Non!
Objectif être riche comme Crésus. Ils n'y croyaient pas dès le début.
Non!
On te l'avait bien dit, mais t'as pas cru.
Non!
Ils découvrent que je suis comme poupée russe.
Ah. Non!
Objectif être riche comme Crésus. J'verse 2-3 gouttes d'eau bénite. Prie pour que j'atteigne le zénith. Le racisme est systémique, l'élite nous prend pour des débiles. Le respect se mérite. J'suis ton ancienne, pas ta petite. L'étale sur les chevilles, achat d'humain par devise. C'est la revanche, on va tout rapatrier. Mes redevances me font pas tout oublier. Le mépris et les propos déplacés. Comme après tsunami, t'es dévasté. Trop de lâcheté. T'aimes pas les matérialismes et le dernier sac, tu l'as acheté. Alou n'engendre pas de brebis. Je transcende le game à chaque vendredi. Plus
souvent qu'autrement. Vous faites les choses médiocrement. Beaucoup se vantent, sont arrogants. On fait les choses sobrement.
Ils n'y croyaient pas dès le début.
Non.
On te l'avait bien dit, mais t'as pas cru.
Non.
Ils découvrent que je suis comme poupée russe.
Non.
Objectif être riche comme Crésus. Ils n'y croyaient pas dès le début.
Non.
On te l'avait bien dit, mais t'as pas cru.
Non.
Ils découvrent que je suis comme poupée russe.
Ah, ouais.
Objectif être riche comme Crésus. Crésus, Crésus, Crésus.
OK, un True Big Mac, c'est bon. Mais parler d'actualité avec Félix-Antoine Audet, c'est encore meilleur.
De retour sur les ondes de Chiz 94.3, vous écoutez toujours les affamés. À ma droite, à ma gauche, respectivement, Laetitia Zay et Freddy Constant. Et au téléphone avec nous, c'est notre chroniqueur économique, comme à tous les mercredis, 12h30. Exception faite de la semaine dernière, parce que le directeur de l'information, des fois, il fait des niaiseries. Hein? Ah, tu me pardonnes-tu, Nick?
Ouais, oui, ben oui.
Nicolas Leclerc, donc, qui est avec nous, comment vas-tu?
Ça va bien, vous autres, comment ça va?
Ça va très bien, bien bon très bien. Je trouve ton choix de sujet tellement important et pertinent, particulièrement en ce temps d'incertitude économique pour beaucoup de Québécois, Québécoises, Canadiens, Canadiennes. Tu veux nous aider à gérer nos dettes personnelles et comment s'en débarrasser?
Exactement. Puis aussi parce que c'est la période des impôts, puis certains vont avoir des remboursements d'impôts, puis ils se demandent toujours quoi faire avec ça. Donc, il y a toujours la possibilité d'aller le dépenser au max, puis il y a toujours aussi la possibilité de bien investir ou se débarrasser de ses dettes avec ça. Donc, c'est un peu aussi le but aussi de la chronique du timing.
Es-tu en train de me dire qu'économiquement parlant, mon retour d'impôt devrait pas être dépensé dans les restaurants et au cinéma? C'est-tu ça que tu es en train de me dire?
C'est exactement ça. Oh,
tu viens de briser tous mes plans financiers pour les prochains mois.
Donc aujourd'hui, je voulais parler précisément comment se débarrasser des certaines techniques, une façon de faire pour justement être capable de passer par-dessus puis mettre une croix là-dessus pour toujours. La première méthode pour s'en débarrasser, c'est l'effet boule de neige. Donc, qu'est-ce que c'est ça, la boule de neige? Ben, c'est assez simple. C'est une technique qui est d'un point de vue émotionnel et non d'un point de vue mathématique. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, c'est quoi? C'est on paye d'abord nos petites dettes en termes de montant et on monte les dettes, on va vers les dettes de plus en plus grosses par la suite. Donc, évidemment, il faut payer le minimum sur chacune des dettes à tous les mois. Si on n'a pas le choix, on s'en sort pas, il y a un minimum à payer. Et le supplément que vous pouvez mettre de côté pour payer vos dettes, ben vous la mettez sur la plus petite dette. Donc, c'est quoi le but derrière ça? C'est de pouvoir commencer à pouvoir mettre des X sur nos feuilles de dette. Ben, celle-là est payée, celle-là est payée, celle-là est payée. Fait que c'est une façon de se motiver. Donc, rapidement, on voit déjà des modifications sur notre dossier. On voit que certaines dettes qui ont été payées. Donc, c'est motivant de pouvoir embarquer comme ça.
Ouais, sur l'effet,
et les montants,
l'effet émotif est fort. Là.
Exactement. Puis, quand la première dette est payée, ben, ce montant-là, vous le rajoutez à la deuxième dette, ainsi de suite. Donc, ça grossit de plus en plus vite. Et on finit par faire un effet boule de neige et de se débarrasser de ces dettes. Donc, ça, c'est la façon émotionnelle de le faire. Maintenant, il y a la méthode aussi qui est purement mathématique. Donc, on oublie les émotions. Et à ce moment-là, c'est la méthode avalanche. C'est-à-dire quoi? On prend les taux d'intérêt de nos dettes et on commence à payer celle qui est la plus onéreuse en termes de taux d'intérêt. La seule affaire, c'est que ça se peut que ce soit aussi la plus grosse dette. Donc, ça se peut qu'au niveau de la motivation, ça soit dur parce qu'on n'a pas l'impression qu'il se passe grand-chose. Par contre, c'est la méthode où on va payer le moins d'intérêt en bout de ligne. Donc, c'est quand même la méthode à privilégier si vous êtes capable de passer sur le côté des émotions. Donc, ça, c'est la méthode avalanche. Donc, ça, c'est les deux principales méthodes pour essayer de clencher ses dettes. Ça, c'est quand on a de l'argent de côté et qu'on est capable d'en mettre. Parce que là, il y en a, ils vont me dire, « Mec, c'est bien beau, mais moi, j'ai pas d'argent que je peux mettre sur mes dettes parce que j'arrive pas de toute façon, je continue à chaque façon. »
C'est une réalité, malheureusement.
Oui, exactement. Alors ça, il y a des petites techniques qu'on peut faire, pas nécessairement plaisantes, ok? J'ai mieux dire, là, c'est pas se débarrasser de ses dettes, c'est pas facile, ok? Il y a pas de... C'est son miracle, il est magique. Mais il existe des techniques, dont avoir un revenu d'aplomb. C'est-à-dire d'avoir un sideline, comme on dit en bon québécois, d'avoir soit un deuxième emploi, ou même faire des choses. On sait avec le télétravail, puis les services en ligne à ça, on peut même offrir d'aider quelqu'un à faire des tâches administratives en ligne de chez soi, puis d'être rémunéré pour ça. Donc, c'est quand même plus facile d'avoir des jobs aujourd'hui qu'il y a quelques années.
Les Uber Eats de ce monde, TaskRabbit, plusieurs options.
Exactement. Fait que ça, c'est une façon, revenu d'appoint, ça permet d'augmenter nos revenus puis de pouvoir mettre de l'argent sur nos dettes. L'autre chose aussi, c'est de vendre des choses qui ne servent plus à rien. Ils ne servent plus à rien, hein, comme la pub. On sait qu'on peut vendre du linge, on peut vendre des objets, on peut vendre des autos, etc. On peut vendre des biens et avoir de l'argent qui rentre et s'en servir pour payer nos dettes. Donc, si vous avez dans votre garde-robe beaucoup de linge que vous n'utilisez plus, plutôt que le donner à une friperie ou le jeter, vous pourriez essayer de le vendre sur certaines applications qui existent. Je mets un bémol là-dessus parce que les ventes, faut les déclarer. Donc, si vous vendez des objets personnels ou même un véhicule, puis que vous le vendez à profit, exemple, il peut avoir des impacts fiscaux. Fait que faites juste bien attention quand vous vendez des choses.
Oh, ça, c'est quand même intriguant, là, juste pour être sûr que je me fasse pas arrêter par les services d'impôts. si j'ai vendu ma PS4 l'an dernier puis je l'ai pas déclaré, je suis en trouble d'être en prison. Là, c'est quoi qui se passe?
Est-ce que c'est vendu à profit? Ça, c'est la vraie question.
OK. Donc, si tu le revends moins cher que ce que tu l'as acheté,
il n'y a pas de problème.
Ah, OK.
On l'oublie. Mais exemple, parce que je dis ça, parce qu'avec les automobiles, c'est arrivé pendant la COVID.
Oui.
Le monde a acheté des chars usagés, mettons 2000, puis ils ont vendu 3000. Ben, c'est un gain capital. Faut le déclarer. Et ça, le monde, il pense pas nécessairement.
Effectivement.
C'est normal. Mais effectivement, faut le déclarer.
Donc, c'est qui t'envoie ton T4 à ce moment-là? C'est Kijiji?
Si vous vendez des cartes Pokémon ou des cartes de hockey, ça peut aussi être considéré comme un revenu d'entreprise. Donc, faites attention à ça si vous vendez en ligne certains produits ou certaines choses.
Oui, c'est bon à savoir.
Mais l'impôt, là, ça se calcule généralement sur le revenu ou le profit.
Oui.
Fait que si vous faites des ventes sur Kijiji, vous n'avez pas de profit. Comment le gouvernement le sait?
Oui, c'est ça. Comment il sait à quel prix je l'ai acheté?
Si vous faites la perte, à ce moment-là, vous n'avez pas à le déclarer. C'est pas déductible, malheureusement. On peut pas. On perd des deux côtés. C'est pas déductible d'impôt pour la perte, mais si une perte d'argent, vous n'avez pas à le déclarer. C'est vraiment seulement s'il y a un gain.
Mais comment
le gouvernement le sait que vous avez eu un gain sur tel ou tel article?
Ils peuvent vous demander de voir les factures, les documents à l'appui. Puis si vous n'êtes pas capable de les fournir, ben ils peuvent décider de faire une cotisation arbitraire qu'on appelle. Ils estiment le montant que vous leur devez. C'est important quand même de garder vos factures. S'il y a des choses de valeur hein, que vous achetez, puis je parle pas juste d'une maison, mais des cartes de collection ou des pièces de monnaie, des timbres, peu importe ce que vous collectionnez ou vous avez, ça pourrait être important de garder vos factures si vous pensez revendre un jour. Ça, c'est bien important.
Mais quand on les revend, il n'y a pas de facture qu'on remet à l'acheteur?
Il n'y a pas de facture, effectivement. Il n'y a pas nécessairement de facture, mais ça pourrait devenir un revenu d'entreprise. Mais je n'entrerai pas dans les détails. Là.
Ouais,
ça pourrait être une chronique à part entière pour ça. Mais effectivement, il peut y avoir des impacts fiscaux. C'est,
okay.
C'est important à retenir. Puis je pourrais faire une chronique à ce sujet-là.
Bon, on va s'en rappeler certainement.
Et super. L'autre point qu'on peut utiliser, c'est bien utiliser l'argent gratis. Là, l'argent gratis, avec mon partenaire, ça se rappelle de...
Juste pour préciser, là, parce que la ligne téléphonique te coupe un petit peu, tu dis bien l'argent gratis et non pas l'argent raciste.
Non, gratis.
Oui, ouais, c'est ça, ça sonnait un petit peu similaire. je vais juste préciser.
Non, merci de spécifier si vous avez mal entendu. Donc, c'est l'argent gratuit, donc dans le sens de gratos. Mettons que vous avez des coupons rabais ou que vous avez des billets d'entrée à une place, etc. C'est de l'argent qu'on peut utiliser comme on veut. Mais vous seriez mieux de l'utiliser à des choses que vous voulez nécessairement faire, que des choses que vous alliez faire. Exemple, si vous avez un rabais sur un produit, mais que vous n'alliez pas acheter ce produit-là, ben c'est pas vraiment un rabais. Okay? C'est où je vais en venir.
Fait que là, t'es-tu en train de dire que j'ai perdu de l'argent parce que une compagnie de pizza m'a donné 50% sa pizza hier? C'est ça que tu me dis, là.
Ben,
c'était pas
si
un bon move économique.
À la base, effectivement, on vient de dépenser 50% du prix de la pizza alors qu'on n'aurait pas dû.
Bon, je me suis fait avoir.
Encore une fois. Une autre technique, c'est évidemment de diminuer ses dépenses. Ça va. Ça va de soi. Et une autre solution, c'est l'épargne impulsive. Donc là, on peut me dire, qu'est-ce que c'est ça, l'épargne impulsive? Surtout le mot épargne, c'est un peu spécial quand on parle de dette. Eh bien, si vous alliez pour faire un achat, mettons que vous arrivez à un magasin, vous dites, hey, j'aimerais ça m'acheter justement une PS4 ou une PS5, on va dire, puis c'est à 700$, puis vous dites, hey, non, ça n'a pas d'allure. Je peux pas dépenser 700$, j'ai pas les moyens, etc. Non, je me refuse cette dépense-là. Ce que vous faites, c'est que vous prenez cet argent-là que vous auriez normalement dépensé et vous la mettez soit en épargne ou sur vos dettes. Okay. Donc, c'est une façon d'épargner, parce que de toute façon, vous auriez dépensé cet argent-là. Vous en seriez privé, mais vous avez bien fait les choses, vous avez dit non, ça suffit. Donc, vous prenez ce montant-là et vous le payez vos dettes avec ça. Donc, ça, c'est une autre façon aussi de le faire. Et ça se motive, parce qu'on dit, hey, je vais mettre 700$ sur mes dettes d'un coup, ben, c'est motivant. Hein?
Oui, c'est... Quand tu réussis à surpasser tes pulsions instinctives de dépenser de l'argent, ben bravo, tu le mets de côté.
Exactement, puis il faut voir ça, faut voir ça comme bénéfique pour soi. Faut se motiver avec ça, dire ben ouais. J'ai réussi à clairer cette dette, j'ai réussi à passer par-dessus la tentation. Ça, ouais. C'est un peu ça qu'on faut se voir.
Vas-y.
Non, et j'avais parlé aussi de la consolidation de dette, c'était le dernier point. Quand on s'en sort plus, puis qu'on a bien beau vendre nos choses, avoir des revenus d'appoint, puis qu'on réussit pas, malgré tout, à s'en sortir, parce que c'est des situations qui peuvent arriver, malheureusement, à ce moment-là, vous pouvez aller voir des syndics de faillite. Et avant de faire faillite, il y a, on appelle des consolidations de dettes et des ententes aux consommateurs, donc propositions aux consommateurs. Donc, c'est une façon d'essayer de s'en sortir encore une fois, soit de mettre toutes les dettes, petites dettes qu'on a sous un seul paiement, ça facilite la gestion aussi. Ou sinon, c'est d'essayer de prendre des ententes avec les créanciers pour dire, ben, je vais payer une certaine portion des dépenses, des dettes que j'ai envers vous. Et après ça, évidemment, il reste toujours la faillite qu'on essaie d'éviter au maximum. Mais parfois, malheureusement, on arrive dans une situation où la faillite est la seule option légitime à utiliser.
Ben, merci beaucoup, Nicolas Leclerc, chroniqueur économique sur nos ondes comptables dans la vraie vie. C'est toujours un plaisir de te parler, mon ami.
Plaisir partagé.
Yes, on se retrouve pas la semaine prochaine, on est en semaine de relâche, je m'assure de t'avertir là, que t'as pas besoin de venir.
C'est bon, merci.
C'est bon, à dans deux semaines, Nicolas, bye.
Au revoir.
Nicolas Leclerc, donc comptable pour Chez 94.3 et merveilleux chroniqueur économique. Moi, c'est pas nécessairement pour se sortir des dettes, là, mais c'est la petite note que je mettrais. Moi, c'est ce qui m'a permis d'économiser en étant quelqu'un qui... a aucune capacité d'autogestion financière. Là.
Ah oui?
Okay.
Il y a certaines applications bancaires, dépendamment de votre banque, je sais, c'est pas toutes les banques qui le font, mais il y en a quelques-unes qui le font, qui offrent un programme d'économie automatique.
Ah oui?
Puis là, je parle avec Nomi, je pense.
Oui, Nomi, c'est moi, ça, avec la Banque Royale que j'ai utilisée, qui m'a permis de ramasser un montant astronomique que j'aurais jamais pensé être capable de mettre de côté. Puis c'est pas là, comme un virement automatique que tu dis, ben à toutes les payes, enlève 300$. Moi, je suis pas capable de fonctionner comme ça parce qu'il y a des fois où j'en ai plus besoin, il y a des fois où j'en ai moins besoin. Nomi calcule en moyenne là, combien tu dépenses quand tu as tant d'argent, tu dépenses ci, tu dépenses ça. Puis il va mettre de l'argent tout seul en fonction de ce que tu as d'extra. Okay. Régulièrement. Donc, ça permet souvent, de façon un peu intelligente, sans que tu t'en rendes trop compte, parce que c'est par petit montant, le plus élevé que ça va prendre à la fois, c'est 75$.
Okay.
Donc, jamais trop dévaliser ton compte en banque d'un coup parce que pendant une semaine, t'as rien dépensé, mais t'as une grosse dépense dans la deuxième semaine avant ta paye. Là.
Ouais.
Vous voyez un peu le genre. Donc, c'est super, super pratique. Si vous avez ça sur votre banque, moi, je ne peux que vous le recommander. Ça m'a grandement aidé dans les dernières années. On va prendre une pause musicale sur les ondes de Chiz 94.3. Les Lunatiques avec Où est? Restez les nôtres.
contre la coriandre. Aux affamés, on débat de choses tout aussi déchirantes et un brin insignifiantes.
Et on était en train de débattre durant la pause publicitaire. On s'est arrêté parce que je pense que c'est important qu'on ait ce débat-là en nombre. Je veux vous parler, on en parle depuis quelque temps maintenant, de TikTok. TikTok qui a été banni de pas mal tous les employés bureaucratiques du Québec et du Canada. L'Ontario qui envisage le faire, la Caisse de développement du Québec qui le fait, Hydro-Québec qui le fait, tous ces employés qui doivent s'en débarrasser sur les téléphones de travail. Le Congrès américain, les fonctionnaires américains l'ont fait aussi. La décision, on n'arrête pas. Sauf que jusque-là, on parlait simplement de téléphones de travail. Là, le gouvernement américain envisage très sérieusement, parce que c'est un des rares enjeux qui rejoint autant les républicains que les démocrates, on envisage très sérieusement un projet de loi pour bannir l'application tout court, complètement aux États-Unis.
Pour quelle raison?
Ben là, c'est l'enjeu, évidemment, de sécurité relié au gouvernement chinois. Parce qu'il y a récolte des données privées, comme n'importe quel autre média social.
OK.
Sauf que avec les lois chinoises, toute compagnie chinoise doit partager les données qu'il récupère avec le gouvernement. Le gouvernement qui est actionnaire à 50% de toutes les compagnies privées chinoises. C'est donc l'inquiétude qu'il y a, particulièrement aux États-Unis, qui sont en opposition directe sur la scène internationale avec la Chine dans beaucoup d'enjeux. Alors, on considère sérieusement, pour éviter cette récolte de données privées, de bannir TikTok aux États-Unis. Ma grande question que j'ai à vous poser, devrait-on bannir TikTok au Canada? Et là, je vous parle comme personne qui passe beaucoup trop de temps. Là, moi, je suis atteint là, du virus TikTok où je vais m'asseoir dans mon lit, regarder TikTok, me dire « Ah, ça fait un beau 5 minutes » puis réaliser que ça fait 3h30. J'exagère un brin, mais pas tant que ça. Alors, la grande question, devrait-on bannir TikTok au Canada? Laetitia, t'avais beaucoup de choses à dire, là. Vas-y, t'étais emportée, t'étais passionnée
non,
tout à l'heure.
Peut-être
là.
Que moi, mon avis, ça sera pas l'avis de tout le monde, parce que non, moi, personnellement, j'ai pas de compte TikTok. C'est un choix. J'ai jamais voulu l'avoir.
Est-ce que
rien
c'est...
qu'à voir tout le monde sur TikTok, ça, c'est un truc que j'aime pas.
Mais est-ce que c'est en lien simplement avec des préférences personnelles ou c'est en lien avec justement les enjeux de sécurité?
Bah, déjà, je le trouve pas utile. En jeu de sécurité, je pense qu'on est plus sécurisé avec depuis l'arrivée des réseaux sociaux, parce que même sur Facebook, si on prend le point pour lequel ils ont interdit TikTok dans les administrations, c'est juste parce que les informations personnelles sont dévoilées depuis. Mais moi, la question que je me suis posée, c'est les informations personnelles sont dévoilées aussi sur Facebook, sur Instagram, mais c'est parce que là, on a la possibilité de les dévoiler nous-mêmes, contrairement à TikTok. Donc, je me suis dit. Voilà pourquoi ils l'ont interdit d'une première part.
Je vais laisser Freddy y aller, je vais revenir là-dessus.
Moi, le problème, c'est vraiment le conflit qu'il y a entre la Chine et les États-Unis. Il faut éviter de dire que c'est un problème de sécurité. Le véritable problème, c'est le conflit qui existe entre les États-Unis et la Chine. C'est la raison pour laquelle le média est interdit. Parce que si on veut parler de l'enjeu de la sécurité, Facebook n'est pas meilleur, ni Instagram, tous ces réseaux sociaux.
C'est certainement une question reliée au conflit, mais on parle de sécurité de la vie. Tu sais, la différence entre Facebook, Instagram, Twitter...
C'est toi qui as le choix. Non, Google. Si, quand même, parce que sur Facebook, c'est toi qui as le choix de mettre ton nom, ton prénom, t'as le choix de mettre ta date de naissance et tout. On te donne, en fait, le choix de divulguer des informations personnelles. Alors que sur TikTok, plutôt... Tu peux mettre un synonyme, on va dire, ou un pseudo, il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de problème.
Mais la collecte d'informations se fait quand même. Là.
Oui, mais là, ils n'étaient pas obligés de le faire. Comme,
Facebook fait plus de publicité à partir d'une autre donnée que TikTok. Là.
Exactement. Là,
mais c'est toi qui le... Moi, je dirais que c'est toi qui choisis et qui décide.
Ben non, mais c'est parce qu'il y a une partie, qui est inconsciente. Là. Tu parles des informations dévoilées volontairement. Donc, par exemple, de mettre ton nom sur Facebook, etc.
Le nom, la date de naissance et tout ça.
La collecte d'informations privées, ça va plus loin que ça. Ça va, par exemple, à la collecte de ta localisation avec Google.
Toutes les applications le demandent.
Oui.
Et c'est à toi de choisir ou pas.
Exactement. Mais là, la différence pour moi entre un Facebook et un TikTok, c'est que Facebook,
te demande, on te donne.
Ben, tu demandes dans les deux cas. Là. Il y a toujours les demandes de voyons de.
L'heure de l'inscription.
Les demandes, c'est pas ça le point exactement. C'est qu'on va, on parle d'une compagnie privée. Okay. Au niveau de Facebook. Donc, comprends-moi bien, l'enjeu de tes données, de la sécurité de tes données, elles sont vendues. Là. Si vous le saviez pas, là, c'est utilisé, c'est vendu.
Ouais, quand on a une autre volonté, parfois, on n'est même pas au courant.
Mais c'est un enjeu commercial. C'est okay. Il y a un enjeu de données, de protection des données, mais plus à un niveau commercial, de est-ce que c'est éthique? C'est tout un autre enjeu.
OK.
Au niveau de la Chine, c'est justement un enjeu de sécurité à cause du conflit avec la Chine.
Ouais, yes.
Parce qu'il y a collecte de données et la crainte du gouvernement américain, c'est de dire c'est un outil de surveillance des citoyens américains qui est utilisé par un pays avec lequel on est en conflit.
OK, mais les citoyens américains eux-mêmes sont libres, ils sont indépendants. Tu es capable de te connecter à tel réseau social et puis ne pas être capable de te connecter à un autre. C'est toi qui décides avec quel réseau social, tu vois.
100%.
Mais pourquoi le gouvernement veut interdire ça?
Leur inquiétude à eux, c'est l'aspect, non, je répète...
Les citoyens sont libres de travailler avec Facebook ou TikTok, c'est leur liberté.
Oui, mais la différence, encore une fois, c'est que TikTok, l'information se retrouve dans les mains d'un gouvernement en opposition. Si, pour une raison X, Y, Z, il y a un conflit économique qui existe, en fait, là, un conflit armé, c'est peu probable, là, mais tout genre de conflit politique et économique, il y a des risques de fuite de données importantes. Là. Par exemple, Facebook, là, ne fera rien avec une donnée sur une compagnie d'armement. T'sais, ils vont l'utiliser sur l'aspect, mettons, t'es un employé d'une compagnie d'armement. Là. Okay? Puis sur ton téléphone personnel, t'es peut-être pas supposé, mais il y a certaines données sensibles qui s'y retrouvent. Facebook va peut-être les utiliser pour acheter de la pub, pour te vendre de la pub qui est dirigée vers le profil que tu es. TikTok, il y a des informations qui sont peut-être sensibles, qui ne devrait pas se retrouver entre les mains d'autres gouvernements, qui peut s'y retrouver. Et là, tu donnes ça à un autre gouvernement, plutôt qu'une compagnie qui n'a rien à faire avec des données d'armement, par exemple.
Mais tu sais, en fait, Félix, après aussi, quand j'analyse, le problème vient au niveau des entreprises elles-mêmes qui se sont mises dans ce problème-là. Parce que avant, quand on n'avait pas TikTok, on utilisait quand même Facebook, pour même pour les entreprises, pour vendre, parce qu'il faut se mettre à la page, comme on le dit.
Oui.
Faut être dans le... Mais maintenant, les entreprises ont décidé elles-mêmes d'aller divulguer les informations sur TikTok, parce qu'il y a des postes où on te demande, en communication, on te dit qu'il faut avoir une connaissance de TikTok parce que tu vas faire passer l'information là-bas. Donc je me dis, elles sont aussi coupables que le gouvernement qui prend ces informations personnelles, parce que c'est elles-mêmes qui ont décidé d'aller sur ce média.
Ben, c'est vrai qu'il y a une utilisation de ce phénomène-là. Là, je comprends un peu ce que tu veux dire au niveau du fait que si les compagnies privées l'utilisaient pas, ben la Chine aurait
pas eu ces informations.
Ben, il y aurait peut-être moins de popularité, il y aurait peut-être quelque chose de différent, mais je pense que c'est plus le marché va où il y a des utilisateurs. Puis les utilisateurs, c'est qu'il y ait des pubs ou non, la collecte de données se fait par TikTok.
Oui, mais un marché, ça je vais dire quoi, ça s'analyse avant.
Oui, il y a peut-être
TikTok,
quelque chose.
TikTok, c'est quelque chose, c'est beaucoup pour de l'amusement. Donc, je pense les compagnies qui doivent se tourner vers TikTok, c'est plus des compagnies dans la vente de vêtements, d'habits, parce qu'on fait de la pub pour ça.
Dans le marketing
influence. Mais gérer les grandes compagnies qui ont des secrets, les compagnies d'État, ne devraient pas aller sur TikTok quand même.
Non, mais un employé, là.
Oui, un employé, mais il y va pas au nom de l'entreprise.
Non, pas nécessairement, mais ça se peut, là. Mettons, là, tu travailles, t'es attaché de presse pour une compagnie.
OK.
Ton téléphone cellulaire, t'es attaché de presse pour l'allier. Okay?
OK.
Ton téléphone cellulaire, est-ce que ça arrive que des fois t'as une conversation qui concerne le travail sur ton téléphone cellulaire?
Oui, mais bon. J'irai pas le faire. Je vais pas aller le poster. J'irai. Bah, est-ce qu'ils dévoilent nos conversations? Non, je pense pas.
Ben, ils ont pas besoin, parce que la collecte de données, là, ça, il y a tellement de documentaires là-dessus. Ils ont même pas besoin de t'écouter. Là, on a souvent cette théorie du complot là, de mon téléphone cellulaire m'écoute.
Mais ça, ils ont même pas ça, besoin. C'est réel, dans le fond.
C'est pas réel en tant que tel.
Non,
le téléphone cellulaire a pas un écouteur qui diffuse ça à quelqu'un.
Tu me le diras le mercredi prochain. Tu fais le truc. Tu penses à quelque chose. Ou même, tu essayes d'aller sur Google, tu fais une recherche pour un article et tu verras sur Facebook, tu verras les mêmes choses à chaque fois.
Mais t'as pas besoin d'être écouté, c'est ça mon point.
Bah, c'est ça l'écoute aussi, dans le fond.
C'est juste que la récolte de données, donc par exemple, une recherche Google, c'est un bon exemple, c'est de la récolte de données.
Ou même quand t'en parles, tu sais, tu peux, y a aussi le fait que tu peux voir quelqu'un dans la rue et après on te demande en suggestion sur Facebook. Connaissez-vous cette personne?
Oui, parce que ça, c'est ta localisation. C'est ta localisation qui est analysée. C'est jamais ce que tu as dit. Tu sais, par exemple, un exemple que j'avais déjà vu. Je vais en visite chez Freddy.
Okay.
Freddy m'invite à souper. Ça va super bien, on soupe. Ha. Et là, il me dit, hey, je vais me brosser les dents. J'ai acheté ce nouveau dentifrice-là. Tu devrais voir, c'est vraiment bon. Blablabla.
Ouais.
Là, je retourne chez nous et après, j'ai une pub de ce dentifrice-là. C'est pas que le téléphone cellulaire a entendu la conversation. C'est que le téléphone cellulaire a noté, ben, les compagnies de publicité ont noté que ma localisation s'est retrouvée chez toi. On sait à cause de tes données d'achat que tu achètes souvent ce dentifrice-là. Donc, la compagnie assume, hey, il y a peut-être une possibilité.
Données, sans mes données, ça passe mes données contre ma volonté, parfois, ici, même pas au courant de tout.
Exactement.
Ça, ouais, ça.
Mais la différence entre la possibilité de révéler des secrets importants et sensibles gouvernementaux à un autre gouvernement et que j'ai une pub de pâte à dents, pour moi, elle est significative, là.
Ouais.
Il y a quand même de quoi de différent, là. T'sais, il y a un enjeu de sécurité publique qui n'est pas nécessairement le cas avec Facebook. Facebook, c'est une question de protection de ta vie privée. TikTok, c'est un enjeu possible de sécurité publique.
Peut-être.
Il y a une différence quand même à noter, selon moi, évidemment. Là,
peut-être, mais pour moi, c'est vraiment le conflit entre les États-Unis et la Chine.
Ben oui, mais c'est ça.
Ben oui.
Mais c'est ça, quand je dis sécurité publique, c'est à cause du conflit entre les deux gouvernements.
Sinon, vraiment, Facebook n'est pas mieux que TikTok et vice-versa.
Ça, sur cet aspect-là, non. Sur la protection des données privées, non. C'est juste à qui est-ce qu'elles vont, les données privées, qui est quand même différent. Je te confirme que Facebook les envoie pas au gouvernement russe, là, tes données.
Non.
Il les envoie à des acheteurs et à des compagnies de marketing. TikTok les envoie au gouvernement chinois.
OK.
C'est là la différence qui est quand même majeure. Là. Donc, la grande question, seriez-vous prêt à voir TikTok être banni du Canada? Oh oui, vas-y.
OK, ce que tu veux dire, c'est que TikTok a plus la capacité de créer comme un coup d'État d'un pays que Facebook?
J'irais pas à dire... Ben, est-ce qu'ils ont la capacité de, techniquement...
À partir des informations ou de l'enjeu sécurité?
Techniquement, oui. Je pense pas que c'est un réel enjeu, la possibilité d'un coup d'État, là. Mais il y a un enjeu de sécurité qui est différent parce qu'un gouvernement peut faire des choses différentes avec des données sensibles qu'il n'y a pas nécessairement avec une compagnie de marketing, là.
Dans le fond, ils font pas des coups d'État, j'irai pas jusque-là, mais ils font beaucoup de sensibilisation. J'ai vu beaucoup de dénonciations, même pendant les guerres, où les gens utilisaient TikTok, en fait, pour en parler.
Mais même Facebook a été utilisé.
Ouais, c'est ça, la désinformation.
TikTok aussi, parce que les gens ont la possibilité de faire des vidéos en direct et d'expliquer en même temps. Par
quand
rapport à
regardes,
Facebook,
quand
où il y a beaucoup de restrictions.
Le convoi de la liberté à Ottawa, quand tu regardes l'assaut du Capitole, tout ça est parti sur Facebook, là.
Ouais, ben, les réseaux sociaux en général, je mettrais pas un réseau social en particulier, à moins, ben, peut-être, il y a peut-être des informations que j'ai pas, là, mais à ma connaissance, c'est les réseaux sociaux en général. Les events Facebook, c'est quand même très populaire, effectivement.
Exactement.
Pour organiser ces affaires-là.
Exactement.
Encore une fois, comme je te dis, c'est simplement la question, là. Si une information sensible d'un gouvernement est donnée à une compagnie de marketing ou à un gouvernement en conflit direct, il y a un enjeu de sécurité avec un, puis il n'y en a pas avec l'autre, là. Tu comprends la différence, Freddy? Come on, là.
OK. J'ai compris la différence. Fait que le Canada veut se pencher pour ça parce que le Canada, c'est un allié des États-Unis ou parce que le Canada a la même vision que les États-Unis.
Ben, on a des conflits avec la Chine, là. T'as juste à penser aux histoires des deux Michael qui ont été pris en otage, les histoires possibles. Là, je mets des gros guillemets parce que c'est pas très clair, d'ingérence dans les élections canadiennes.
Canadiennes. Avec Trudeau.
Il y a un conflit très clair, là, entre le Canada et la Chine. La relation, elle est pas douce, là. Donc, c'est un enjeu complètement différent. Il y a une raison pourquoi les employés gouvernementaux bannissent TikTok de leur téléphone cellulaire. C'est pour éviter la perte de données sensibles au gouvernement chinois. Mais c'est un enjeu, vous comprendrez, qui est complexe, là, certainement. On va prendre une pause publicitaire parce qu'on a déjà pris beaucoup de retard sur nos ondes. Au retour, on parle de contraception. Est-ce qu'elle devrait être gratuite partout dans le Canada?
Bonjour. Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Le Beatnik Show, la meilleure playlist de rap au Québec. Des talents locaux, des nouveautés, la crème du hip-hop québécois. Avec votre MC, Nick Leclerc.
Lundi 18h30
au 94.3 Chiz.
Oh yeah, Chiz.
Le meilleur beat, Beatnik Show, man. Je te le dis, c'est malade.
Les matins sont difficiles. Tu dépends de la caféine. Tu t'es même fait brancher un espresso par intraveineuse. Chiz a la solution pour toi. Les matins de semaine, de 8h à 9h30, l'équipe de l'Allongée t'aide à commencer la journée du bon pied. Information, divertissement, météo et circulation, c'est le petit déjeuner parfait. L'Allongée, seulement sur les ondes de Chiz 94.3.
C'est le temps de vous inscrire à Force Avenir. Vous êtes engagé dans votre milieu? Participez à un projet qui a des retombées concrètes? Vous êtes un candidat idéal pour Force Avenir qui reconnaît l'engagement d'étudiants comme vous. Au total, une somme de 114 000 $ sera remise sous forme de bourse pour récompenser les lauréats. Pour plus de détails, rendez-vous à inscription.forceavenir.qc.ca ou communiquez avec le service de la vie étudiante de l'université. Les inscriptions se terminent le 31 mars. Bonne chance à tous!
Droit de parole, c'est l'émission de l'Association des étudiants en droit de l'Université Laval dans laquelle on reçoit des comités de notre association étudiante, des professionnels et des membres de notre faculté afin de démystifier les divers domaines du monde juridique. Tu as toujours voulu savoir si les études en droit étaient dignes de Legally Blonde? Tu te demandes si les avocats ont vraiment une carrière comme celle que tu vois dans Suits? Tu es simplement intéressé par l'actualité et le domaine juridique? Tu es donc invité à la barre pour écouter Droit de parole tous les jeudis de 13h à 14h sur les ondes de Chiz 94.3.
Thank you.
entendu dire que le dessert préféré de Félix-Antoine Audet, c'est le Oreo. C'est drabe, hein? C'est plate, c'est tout.
13h12 sur les ondes de Chiz 94.3. Ne reste que quelques minutes seulement aux affamés. Une émission qui a défilé quand même à la vitesse grand V. On a à peine eu le temps de respirer à travers tout ça. Mais je voulais absolument, absolument aborder ce sujet-là qui revient de temps à autre chaque fois qu'un pays prend une de ses décisions qui, tant qu'à moi, va de l'avant pour une société. Et là, c'est la première fois que ça arrive au Canada. La Colombie-Britannique qui s'est montrée en faveur dans un projet de loi de rendre toute méthode de contraception féminine sous ordonnance gratuite. Donc ça, quand je dis toute, là, si c'est sous ordonnance, la pilule, le stérilet, autre méthode, que ce soit hormonale ou autre, la pilule du lendemain, il y a beaucoup de possibilités. Si c'est sous ordonnance, c'est gratuit. Ça se fait au Canada, ça se fait en Colombie-Britannique. Et la grande question, c'est est-ce qu'on devrait faire pareil au Québec?
Ben oui.
Parce qu'on va le dire simplement et assez rapidement, il y a pas mal juste une personne qui devrait avoir le droit de se prononcer là-dessus. C'est celle que ça concerne.
Non, mais c'est une très, très bonne nouvelle.
Oui.
Déjà, je pense qu'au mois de février, on a vu l'Espagne qui a décidé de mettre un congé quand les femmes ont les règles. Quelque chose de très, 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 très bien.
J'avais même pas vu ça passer. C'est effectivement exceptionnel.
C'est le seul pays qui a voté. Donc, la députée, elle a vu l'accord et ça a été approuvé dans la loi aujourd'hui en Espagne.
Trouves-tu qu'on en fait assez pour épauler les femmes dans leurs besoins reproductifs, que ce soit les règles, que ce soit la contraception au Québec, quoi que ce soit?
Absolument pas. Pour l'instant, j'ai comme l'impression qu'on ne fait rien. Mm-hmm. Je peux voir le nombre de femmes. Moi aussi, j'ai les règles douloureuses, ça fait hyper mal. Tu ne peux rien faire, tu ne peux pas bouger. Donc, vraiment, c'est un bon pas et j'espère que le Canada le fera. En plus, j'en parlais avec une amie, je me suis dit, j'espère que le Canada va en faire de même parce qu'on en a vraiment besoin. Et là, aujourd'hui, je me réveille avec une nouvelle comme ça. La Colombie-Britannique a décidé de rendre les méthodes de contraception gratuites. C'est une bonne nouvelle.
Juge, tu sais, je te demanderai pas le détail précis, là, on s'entend, là, on a tous droit à notre vie privée, mais je suis sûr que ça a un impact financier quand même important d'avoir à dépenser là-dessus.
Je dirais oui, un gros impact financier, parce qu'ils sont vraiment chers pour acheter ne serait-ce qu'une pilule du lendemain ou même une pilule quotidienne, parce qu'il y a aussi des pilules quotidiennes que tu peux prendre quand t'as pas assez d'hormones. Elles sont vraiment chères.
Oui.
Et c'était quelque chose qu'on trouvait abusé. Et on pensait aussi à ces femmes qui n'avaient pas les moyens, en fait, de s'en procurer. Elles ne pouvaient pas en acheter. Et moi, je pense que cette nouvelle, ça va aussi aider pour les grossesses non désirées.
Ça peut effectivement en éviter quelques-unes, surtout au niveau des gens avec des revenus plus modestes.
C'est ça.
Tu avais quelque chose à dire, Freddy, non?
Moi, ce que je voulais ajouter, c'est qu'au Québec, déjà, ça se fait. Mais pour les réserves autochtones, quand vous y allez, là, la pilule du lendemain est pas mal gratuite. Là. Vous présentez votre carte que vous êtes autochtone.
OK, je savais même pas ça. Dans les réserves, donc, la pilule du lendemain qui est gratuite. Mais là, peut-être...
C'est dans certains endroits, je dirais. Ouais, mais maintenant, ça. Là, ça serait un peu partout en Colombie-Britannique. Tu peux aller en pharmacie.
C'est ça.
Il n'y a pas de distinction, je dirais.
Exactement. Tant que c'est sous ordonnance.
Ouais.
Pour vous donner une idée, pour quelqu'un qui est inscrit à l'assurance maladie au Québec, c'est en moyenne 25 à 30 $ par mois en dépenses, même avec l'assurance maladie pour la pilule.
Ça dépend. Il y a des assurances qui prennent même pas.
L'assurance maladie, ça, celle à laquelle la grande majorité des Québécois sont inscrits là, quand tu es sur l'assurance maladie.
Non, mais dans le fond, ça dépend. Je pense pour les pilules, oui, on peut te rembourser, mais pour un stérilet,
non, exactement.
Souvent, c'est compliqué.
Exact.
Il y a certains, en fait, qui sont remboursés et d'autres, non.
Oui, mais pour ce qui est des pilules, là, par exemple, là, environ 25 à 30 $ par mois, c'est calculé qu'en moyenne, une personne qui l'utilise dépense 10 000 $ là-dessus dans sa vie.
Mm.
10 000 $. Je comprends que c'est dans une vie, là, vous allez me dire, c'est espacé, c'est 10 000 $. C'est de quoi rendre ta vie pas mal plus agréable là, d'une manière X, Y ou Z, là. Définitivement.
Mais moi, de mon bord, je miserais beaucoup plus sur les préservatifs, les rendre gratuits, plutôt que les moyens de contraception féminins.
Mais il y en a qui sont gratuits. Je pense que même dans certaines universités, à la rentrée, on te les donne gratuitement.
C'est souvent le cas.
Mais ça ne va pas empêcher les grossesses, ça ne va pas empêcher les maladies.
Mais oui.
Le préservatif masculin, là, honnêtement, je comprends, mais T'sais, le rendre gratuit, c'est une bonne chose. Ça devrait l'être. Exactement. Mais pourquoi est-ce que la contraception féminine ne devrait pas l'être c'est aussi? T'sais, eux, c'est comme un peu une obligation. Dans le sens que, regarde, disons-le comme ça, là, les condoms, t'en achètes pas. Pour le gars, le risque... T'sais, c'est facile de t'éloigner, mettons. C'est pas toi qui es enceinte, là, comprends-tu?
Ouais, ouais.
T'sais, au niveau de la femme, si tu veux t'assurer de ta propre sécurité, surtout quand on connaît le phénomène, je pense que c'est sharking, l'expression, là, qui est un phénomène qui est observable de plus en plus à travers les pays d'Occident, c'est-à-dire retirer le condom sans avertir la femme. C'est pour la sécurité de la contraception chez les femmes, t'as pas le choix d'avoir ta propre méthode.
C'est ça.
Peu importe celle chez les hommes.
Ouais, mais le Canada et le Québec, quoi que ce soit, sont des États qui réclament tout le temps l'égalité. Fait que si on fait quelque chose pour la jeune féminine, on doit le faire pareil pour la jeune.
Ça, je suis d'accord.
Exactement.
Ça, je suis 100% d'accord.
C'est pour
ça,
ça
doit être le cas
voit.
Pour les deux. Mais justement, comme l'a dit Laetitia, il y a pas mal plus d'endroits où c'est gratuit d'avoir un condom qu'une pilule contraceptive. C'est accessible dans beaucoup d'organismes, tu vois. Retrouver des condoms donnés dans les écoles, souvent, il y a des condoms qui sont gratuits, accessibles. Mais parce que la pilule contraceptive ou le stérilet ou autre demande souvent soit une ordonnance ou une intervention chirurgicale, c'est très ça. Littéralement, mais tu peux pas aller juste dans un building d'un organisme, faire excusez-moi, installez-moi un stérilet, s'il vous plaît. Ça marche un peu plus complexe que ça, là. C'est un peu plus difficile
d'accès.
Déjà,
pour l'acheter, c'était 500 $, je crois, et pour l'installer, il fallait ajouter 500 de plus, je pense.
Ah, ça, c'est
hallucinant.
C'est
quand même cher.
C'est hallucinant, hallucinant. Donc, une belle démarche du côté de la Colombie-Britannique, en espérant que ça mettra peut-être un certain incitatif vers le gouvernement québécois. Je pense que les femmes du Québec...
On espère qu'on aura aussi de moins en moins de grossesses indésirées.
Ouais, indésirées. Il fallait rajouter le mot à la fin. On veut juste plus de grossesses. C'est
non,
fini, les enfants.
Indésirées, c'est ça.
Laetitia, elle n'aime pas les enfants, c'est ce qu'on comprend.
Non, j'adore les enfants.
On t'aise, fais-toi sympa. Je continue pour terminer cette émission-là. Jonathan Julien, le ministre responsable de la Capitale-Nationale, a mentionné son désir de voir le nombre d'immigrants qui arrivent dans la région de Québec doubler dans les prochaines années. Parce que le nombre d'immigrants qui arrivent au Québec, il faut dire que proportionnellement parlant, se dirige de façon, excusez-moi ma répétition, là, disproportionnée à Montréal. C'est environ 75% des immigrants qui s'installent à Montréal, et après ça, il y a ceux qui s'installent dans les alentours. Québec, Québec et ses environs, soyons précis, c'est 10% de la population québécoise. Mais il n'y a qu'environ 4%, 4 point quelques pourcents des immigrants au Québec qui s'installent à Québec. Québec. Donc au niveau du poids démographique, il y a une perte pour la région de Québec. Et quand on considère le fait que c'est une des régions qui est le plus affectée par la pénurie de main-d'œuvre, notre belle région de la capitale nationale, il y a quand même un certain enjeu. Il y a une nécessité économique et aussi démographique de voir cette immigration monter. On veut donc essayer de doubler cette immigration dans les prochaines années pour aller chercher le poids démographique de la province pour la ville de Québec. Donc, il y a des mesures qui vont être prises autour de ça, que ce soit pour l'Université Laval qui va essayer de faciliter les liens entre les étudiants de deuxième cycle et les entreprises du Québec parce que l'immigration passe souvent par l'éducation. Des étudiants étrangers qui viennent, on veut tenter de rendre ça plus attrayant de venir à Québec pour que les emplois soient plus faciles à récupérer par la suite. Donc, on voudrait environ 4500 immigrants à Québec par année dans les prochaines années. C'est l'objectif de Jonathan Julien.
OK.
On va regarder, évidemment. Là, il y a toujours l'enjeu. La seule chose qu'il faut toujours surveiller, parce qu'il ne faut jamais oublier les enjeux autour de ça. Tu sais, Montréal le vit bien en ce moment. L'enjeu, c'est que Montréal n'a plus les ressources communautaires pour accueillir les gens. La francisation, les classes d'accueil, et surtout le logement. Je sais pas si vous le vivez en ce moment, auditeurs et auditrices, mais c'est pas toujours facile de trouver un logement abordable à Québec par les temps qui courent. Il y a des hausses de loyers qui sont assez significatives. On est pas mal tous dans cette période de l'année avec le renouvellement de bail qui doit être envoyé avant le 31 mars. Donc ça se surveille. Est-ce que faut bâtir la ville de Québec en fonction de cette augmentation-là. Aussi, si on reçoit plus d'immigrants, parfait, économiquement parlant, c'est une bonne nouvelle, mais il faut bâtir plus de logements. Il faut avoir plus de classes de francisation et d'accueil de disponibles. Il y a beaucoup d'enjeux autour de ça qu'il faut considérer, mais c'est certainement une excellente nouvelle. Au niveau culturel, démographique, économique. Donc, une nouvelle bien intéressante annoncée par Jonathan Julien, le ministre responsable de la capitale nationale. Je termine en vous partageant une histoire que vous pouvez retrouver dans le Journal de Québec. C'est une histoire un petit peu particulière, suivez-moi. C'est un PDG, Sébastien Vachon, qui a fondé une entreprise, Corem, qui a récemment organisé une rencontre avec ses employés où il s'est déguisé en dragon. Tu sais, les espèces de pyjamas là, que tu zippes avec un capuchon, il s'est déguisé en dragon. Vous allez me dire, OK, ouais, pourquoi? Parce qu'il voulait illustrer le fait que les conditions de travail exceptionnelles qui restent inchangées, ça peut relever parfois d'un conte de fées. Mon premier réflexe, je vous le dirai tout de suite, là, c'est le genre de choses que je lis puis je me fâche. Je me fâche, je dis, bon, ben, les employés sont supposés demander des moins bonnes conditions, je comprends pas, etc. Sauf que quand j'ai lu ce qu'il fait pour son entreprise, qui est une entreprise technologique de la ville de Québec, tu vois que les bottines suivent les babines de son côté, là. Il fait pas juste dire, ben, je vais vous donner 3$ de l'heure, 45 heures semaine, pas de temps supplémentaire, puis vous devriez l'apprécier, mon travail. C'est pas ça qu'il fait. Il en donne et il en donne pas à peu près. Le télétravail qui est disponible de façon constante pour tout le monde, c'est le désir. En 2024, il va lancer la semaine, on voit ça de plus en plus à travers le monde, mais une semaine de 4 jours, 32 heures, payée au même salaire. Wow. Donc, pas de diminution salariale, une journée de travail de moins. Il y a beaucoup d'entreprises qui font le test à travers le monde et qui ça démontre généralement une augmentation de la satisfaction des employés. Donc, plein de mesures, là. C'est vraiment quelqu'un qui tente de donner un environnement de travail le plus intéressant et le plus agréable pour ses employés. Mais il continue de dire, malgré tout, on m'en demande toujours plus. Et ça, c'est un enjeu. Je suis le premier à dire que les employés devraient profiter d'un marché qui est favorable aux employés et non pas aux employeurs pour augmenter les conditions de travail, ça irait de l'autre côté si c'était un marché d'employeurs. Les conditions seraient mises en fonction de ça. Mais parfois, je réalise qu'on est peut-être un peu gourmand. Un petit peu beaucoup. Je le vois avec ma copine qui est dans la gestion d'un restaurant, qui reçoit certaines demandes parfois légèrement abusives. Et là, quand tu regardes une compagnie comme ça qui donne exactement tout ce que tu peux vouloir là, du côté d'un employé, dire, ben là, j'ai quand même, malgré tout, de la difficulté à avoir des employés satisfaits des conditions de travail, il y a peut-être un équilibre qui est à atteindre là-dedans. On est peut-être un brin exigeant. On est peut-être un brin exigeant, mais en même temps, pour moi, c'est une des rares personnes que j'entends chialer là-dessus qui a un minimum de crédibilité parce qu'il donne à ses employés. Comprenez-moi bien, là. Si vous êtes déçu que vos employés ne donnent pas un effort maximal quand vous donnez le salaire minimal, ben c'est comme un peu anormal.
Ouais.
Il y a un certain changement qui vient avec ça, là. Mais les conditions de travail, donc, qui continuent de faire parler, surtout en temps de pénurie de main-d'œuvre,
ouais,
c'est toujours la grande discussion. Le PDG qui dit, là, je fais quand même mon possible.
On ouais, peut, mais on peut le véritable problème, c'est comme tu l'as dit, c'est vraiment la pénurie de main-d'œuvre. Plus il y aura pénurie, plus ces employés-là vont comme continuer dans le,
ouais,
dans le nombre de caprices, on va dire ça comme ça, entre guillemets.
Oui, oui, exactement. Je termine avec quelque chose d'assez sympathique qui m'a bien fait rire. Aimeriez-vous faire du ski en juillet?
Non.
Ben, tu vas pouvoir le faire pareil, Laetitia.
Ah oui, c'est pas par rapport je pense à la patinoire intérieure?
Oui, ben c'est pas une patinoire, mais effectivement, un centre de ski intérieur. C'est comme un espèce de tapis roulant,
okay,
à grande vitesse, je suppose, là, qui réplique avec de la neige, de l'eau, la texture de la neige quand
j'en
tu
ai
glisses.
Déjà vu. Ouais.
Okay.
Mais il y a ça qui va être installé à Québec dans quelques mois,
okay,
cette année, qui va permettre autant d'avoir des cours de ski en plein milieu de l'été que des professionnels de se pratiquer sans avoir à se rendre nécessairement dans
en
des
hiver,
montagnes à l'ouest ou à l'hiver, dans les pays d'hiver éternel.
Okay.
Mais c'est vraiment particulier de pouvoir s'imaginer faire du ski en short et en petite chemise hawaïenne à l'intérieur en plein mois de juillet.
Wow.
Ça va être une possibilité à Québec dans les prochains mois. Vous surveillerez ça.
Mais ça, c'est pas impossible là où. Hein.
C'est oui, juste... c'est presque fini d'être construit.
Ah ouais.
Mmh. Oui, c'est vraiment, c'est sûr là. C'est, okay, c'est juste une question de quand est-ce que ça va être fait. Un okay peu de la même manière qu'au bord à parc, tu peux faire du surf en décembre. Okay. Le bar à parc, le club aquatique du intérieur du parc Village Vacances Valcartier, okay. qui a comme le, tu sais, l'espèce de surf intérieur, surf ouais. en grand mot, là, mais une petite planche, puis c'est de l'eau, puis tu défiles sur un espèce de tapis, justement. Mais là, tu vas pouvoir faire la même chose, mais avec du ski à la place.
Okay.
Tout le monde, ouais. allez skier, on se fait un rendez-vous en juillet prochain. Pour l'instant, nous, on prend une pause. Reposez-vous bien. Laetitia, Freddy, vous avez congé la semaine prochaine, c'est la semaine de relâche.
Ouais.
Vous le méritez bien. Toujours un plaisir de travailler avec vous.
Merci à toi.
Merci, merci. On se retrouve dans deux semaines. Merci d'avoir été là.
Semaine, la semaine prochaine c'est good. Désolé, j'ai pas d'expat depuis un bout. J'ai quelques regrets, mais je reste debout.
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Jeunes et aînés solidaires, votre émission hebdomadaire sur Chiz qui tisse des liens entre les étudiants de l'Université Laval et les aînés de la capitale nationale. Oui, tous les samedis de 11h à midi, Jeunes et aînés solidaires ouvrent le micro aux jeunes et aux aînés pour vivre ensemble un moment intergénérationnel à travers différentes rubriques. Portraits, mentorat, trucs et astuces des aînés et des étudiants, tous les samedis de 11h à midi. Avec Jeunes et aînés solidaires, changeons le regard de la communauté sur le vieillissement.
Funk Connection. Les mercredis de 19h30 à 21h30 sur les ondes de Chiz 94.3.